Dans mon préambule, je parlais de la protection de la vie des protection de, du participant. Je parlais avec les nouvelles technologies Facebook, Twitter, nommez-les. Ça peut devenir de plus en plus difficile de garder la confidentialité des participants. Alors, nous avons la chance de recevoir des gens qui s'intéressent à tout ça, à tout à ce côté un peu web, Facebook. Permettez-moi de vous présenter nos quatre prochains conférenciers, qui est Madame Annick Nolin, Madame Monsieur Coulombe et Madame Lecoq. Et ensuite suivra Madame Anna Marin, qui couvrira les 15 dernières minutes. Le sujet est le recrutement des participants via les médias sociaux et comment améliorer la protection de la vie privée. Cette conférence est de nature interactive. Nos conférenciers se prêtant à des jeux de rôle. Comme je vous disais, par la suite, Mme Marin nous fera part des questions d'éthique sur le web et les advertisements en français. Mme Nolin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et un baccalauréat en sciences politiques de l'Université McGill. Elle détient également une maîtrise en droit et politique de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2002, elle occupe la fonction de coordonnatrice à l'éthique de la recherche des établissements au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du monde Montréal métropolitain. Monsieur Coulombe est doctorant en psychologie communautaire à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi vice-président du comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Ensuite, Mme Lecoq, elle est diplômée de la faculté de droit et détient une maîtrise en droit et en bioéthique de l'Université McGill. Elle travaille au CHU Sainte-Justine depuis 2008, y assurant la gestion et la coordination du Bureau des affaires juridiques. Elle est également membre de divers comités. Madame Anna Marin, qu'on aura un petit peu plus tard durant la présentation, elle détient un doctorat en éthique et en anthropologie. Elle est présidente du comité d'éthique de la recherche au CHU de Québec et elle est membre versé dans différents comités d'éthique. Donc, accueillons nos trois premiers conférenciers. Madame Nolin.
Bonjour. D'abord, j'aimerais vous dire que Simon, Nathalie et moi n'avons pas de conflit d'intérêt dans la présente conférence et également que toutes les photos ou diapositives qui sont sur notre PowerPoint sont libres de droit. Également, je veux vous dire que notre présentation va être quelque peu ludique. Donc, faites-vous-en pas, ça va être bien, mais c'est juste que on va peut-être vous surprendre avec quelques éléments. On va dépasser le recrutement avec les médias sociaux. On va plus parler des médias sociaux en recherche parce que ça dépasse un peu le recrutement, puis on va vraiment aborder côté vie privée et confidentialité. Le plan de notre présentation, bon, on va parler d'abord du recrutement des participants. Après, on va parler par ailleurs de l'utilisation des médias sociaux. Pour ce faire, on va vous présenter un cas fictif. Par la suite, suite au cas fictif, on va sortir les enjeux éthiques et juridiques qui vont sortir de ça, principalement sur les aspects de la confidentialité et la vie privée. Et pour conclure, on va sortir des pistes de solutions pour davantage de protection des participants. On sait que pour le recrutement des participants, le nerf de la guerre pour les chercheurs, c'est souvent le recrutement des participants, mais que c'est souvent très difficile pour eux, notamment quand il y a des populations peu nombreuses. Nous, en réadaptation, il y a beaucoup de populations, en fait, il n'y a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de recherches avec des non-voyants de naissance, et c'est une population qui est restreinte. La même chose avec les personnes qui ont eu un traumatisme crânien. Les populations difficiles aussi à rejoindre, c'est populations utilisateurs de drogue ou des personnes atteintes de VIH. Donc, depuis quelque temps, pour contrer ces problématiques-là, on propose d'utiliser le web. Au début, en fait, on parle d'abord, les premières demandes ont été plus avec des sites de l'ordre de Kijiji ou de Craigslist. Et souvent, on propose ces modes de recrutement-là parce que c'est moins coûteux, c'est facilement accessible, puis c'est plus rapide en termes de recrutement pour le chercheur. Mais naturellement, il peut y avoir des problématiques qui vont découler de ça, notamment sur quelle face ou quelle page de ce site-là on va poser l'annonce. Donc, sur Craigslist, cette annonce-là est souvent posée sur du bénévolat ou sur la page communauté. Par ailleurs, sur Kijiji, souvent on va poser d'ailleurs plutôt sur la page emploi, ce qui cause un problème parce qu'on sait tous que le participant à la recherche ne peut pas être rémunéré pour participer à un projet. Il doit plutôt être compensé en indemnité compensatoire pour les contraintes et inconvénients qui découlent de sa participation. Récemment, on commence davantage à avoir d'autres demandes de chercheurs pour aller recruter via Facebook, via Twitter, ou LinkedIn. Donc, via des médias sociaux ou des réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle des services sur le web qui permettent aux utilisateurs de se construire un profil qui va être public ou semi-public, puis c'est dans un système délimité. Ça leur permet aussi de se créer une liste d'amis, une liste d'utilisateurs avec qui ils vont avoir des contacts et ils vont correspondre sur des murs, notamment. Puis, ça leur permet également de consulter la liste des contacts de leurs amis. Donc, il y a quand même un système de boule de neige à cet effet-là. Pour pouvoir illustrer tout ce propos-là, je vais vous présenter un chercheur. Donc, c'est Dr. Ian Tweet. Qui va nous présenter un projet sur la qualité de vie en réadaptation des personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré. Donc, Dr. Tweet.
Bonjour. Bonjour. Je tiens à dire, je parle en mon nom personnel, Simon Coulombe. Je fais de la recherche en psychologie, fait que le cas fictif, c'est fictif, c'est pas mon domaine précisément. Donc, je joue le rôle. Alors, c'est un projet de recherche sur la qualité de vie et la réadaptation des personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré, je ne suis pas expert dans le domaine, mais en fait, en tant que chercheur, oui, chercheur fictif, le syndrome de Guillain-Barré, c'est un syndrome qui affecte le système nerveux périphérique, qui est attaqué par le système immunitaire. On ne connaît pas trop exactement les causes, mais on sait que ça survient généralement chez les patients quelques temps après qu'il y ait eu une infection virale d'origine, au point de vue gastro-intestinal ou respiratoire. Et ça se manifeste par des faiblesses, des picotements dans les jambes, puis ça peut aller jusqu'à une paralysie plus complète. C'est une prévalence très, très faible. Seulement une personne sur 100 000 à peu près est atteinte. Il y a des thérapies qui permettent de diminuer la sévérité et d'accélérer le rétablissement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a plusieurs de ces patients-là qui se remettent de ce syndrome-là. Mais il y a quand même chez environ 30 % des personnes atteintes des symptômes résiduels, puis aussi une qualité de vie au point de vue psychologique et physique et tout qui est diminuée à long terme. Et moi, en tant que chercheur éminent dans le domaine, malgré mes cheveux flamboyants, je m'intéresse à comprendre davantage qu'est-ce qui affecte la qualité de vie de ces personnes-là, en m'intéressant aussi à comment les services de réadaptation contribuent à cette qualité de vie. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des limites aux travaux actuels sur ce sujet-là, la qualité de vie de ces patients-là, parce que c'est souvent des petits échantillons. Comme on a vu, la prévalence est très faible, donc c'est difficile d'avoir des gros échantillons. Ça limite la puissance statistique. Et aussi, les quelques recherches qui ont été faites dans une revue de littérature ici montrent que c'est des échantillons surtout en Europe. Comme moi, je m'intéresse beaucoup à la question des services offerts. Je prends un petit peu trop mon rôle, là, je vais me calmer. À la question des services offerts à ces personnes-là, c'est intéressant de se mettre dans le contexte culturel plus québécois ou nord-américain pour voir comment notre système permet de contribuer à la qualité de vie de ces patients-là. Malheureusement, pour l'instant, c'est surtout des échantillons d'Europe. Mais moi, en tant que fanatique de toutes les nouvelles technologies, je pense qu'une bonne avenue de solution méthodologique, c'est les médias sociaux. Pour recruter des participants, avoir des échantillons plus larges. Les réseaux sociaux, la littérature montre sur la littérature sur la recherche à travers les réseaux sociaux montre que ça permet d'aller au-delà des barrières de lieu. Moi, je pourrais rejoindre des personnes atteintes du syndrome en Europe, en Australie, en Afrique, partout dans le monde. Et puis, c'est aussi facilitant pour les personnes avec incapacité, parce que certaines personnes avec le syndrome qui ont des limitations, qui fait que c'est plus difficile pour eux de se déplacer, par exemple, participer à la recherche, ou etc. Donc, ils peuvent participer, par exemple, par un sondage en ligne, directement du confort de leur foyer. Puis, on sait que les personnes avec incapacité utilisent beaucoup beaucoup ces technologies-là. Puis aussi, des fois, ce qui est le fun, c'est que la participation peut être anonyme ou non, selon ce que je décide. Fait que ça peut, pour certaines personnes, aiment ça, pouvoir participer anonymement. Puis ça coûte pas cher, fait que c'est parfait pour gérer mon budget de recherche. Et aussi, moi, je m'intéresse à la qualité de vie dans sa globalité, vous savez. Fait qu'il y a des questions plus sensibles sur, par exemple, la sexualité, après un syndrome de une fois qu'on est atteint, etc. Puis il y a certaines personnes qui, ça leur dérange moins de se dévoiler un ordinateur que se dévoiler dans un contexte d'entrevue, etc. Fait que moi, je pense vraiment que ça serait une belle avenue pour moi. Puis, fait que je veux rejoindre un large échantillon de personnes atteintes, mais aussi leurs professionnels, pour savoir, les professionnels qui connaissent ça, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, puis poser des questions sur la qualité de vie. Donc, l'objectif de l'étude, c'est vraiment d'explorer la qualité de vie de ces personnes-là en examinant l'influence des services de réadaptation. La méthode, ben moi, je pense que à travers les médias sociaux, je suis capable de rejoindre un bon 100 adultes qui ont vécu le syndrome, puis depuis un an ou plus, pour voir un peu à long terme c'est ceux chez qui il y a des séquelles. Et je voudrais aussi voir 100 professionnels qui ont traité ces personnes-là. Ça peut être des médecins, des ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues qui travaillent, par exemple, dans les centres de réadaptation. La méthode, c'est là que c'est intéressant, on rentre dans le cœur du sujet. Pour les personnes atteintes, ben moi je propose, vous savez, sur Facebook, par exemple, il y a des groupes, comme un peu, ce serait des groupes d'entraide, des groupes de soutien, mais virtuels, qui se créent. Puis ça en est un aussi réel, c'est un groupe de survivants du syndrome, où les gens interagissent, puis échangent l'information, des trucs, etc., pour gérer leur maladie, comment ils sentent, etc. Mais moi, je suggère de cibler ces groupes-là, puis d'aller poster, en anglais, mettre une annonce sur ce site-là, en tant que chercheur, pour annoncer, je fais un projet de recherche, qui veut participer, si vous répondez à tel critère, voici le lien pour remplir un sondage en ligne. Puis, ben, ça aussi, c'est ma page personnelle, comme vous voyez. J'ai mis un exemple dans le bas à droite d'une publicité que je pourrais faire aussi sur ma page. Puis, cette même publicité-là, cette invitation-là, j'irais la mettre aussi sur les sites web, les groupes, comme le groupe qu'on voyait sur la page précédente. Puis, il y a même des chercheurs, puis ça, c'est documenté dans la littérature, parce qu'on peut, quand on est sur Facebook, je sais pas si vous êtes familier, on peut... voir le nom des personnes ou des pseudonymes, puis cliquer, puis dire « je veux être ton ami ». Il y a même des chercheurs qui disent « clique, je veux être ton ami », puis après, veux-tu participer à une recherche? Ben moi, je ferais ça aussi. Fait que moi, je maximise mes chances, vous comprenez? Pas de problème, hein. Pour moi, tout se fait. Puis c'est parce que ça coûte pas cher. Puis... Ensuite, donc, c'est ça. Puis pour aller chercher les professionnels qui ont, parce que je m'intéresse à leur point de vue aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes de ce syndrome-là dans le monde, fait que c'est intéressant de savoir ce qu'ils en pensent, bien, j'irais demander un peu aux participants, aux patients que j'ai recrutés, pouvez-vous me nommer des professionnels qui vous ont traité, que je pourrais aller recruter pour faire un autre sondage, leur faire passer aussi un sondage en ligne, qu'ils me donneraient des noms, je pourrais essayer de leur téléphoner et tout. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que vous savez, le site LinkedIn, tous les professionnels ont maintenant, beaucoup de professionnels ont des profils sur LinkedIn, fait que je pourrais aller compléter mes informations. Comme ici, on a Aimé d'amour, qui est ergothérapeute au centre de réadaptation La Bonté, puis aller étudier à l'université La Meilleure. Fait que vous savez, ça compléterait je pourrais contacter Aimé d'amour sur LinkedIn, lui demander « veux-tu participer à mon sondage? » Puis après, compléter, comme là, je pourrais dire à l'université, étudier là, voir avec qui aller étudier. Fait que ça me donnerait un profil vraiment complet, vous comprenez? Bon. Et pour après ça, je ferais pas, bon, fait qu'il y aurait le sondage en ligne. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que les recherches, je suis pas en train de dire que c'est parfait, les méthodes de sondage en ligne. Les recherches montrent que ça fait des échantillons, des fois, biaisés, pas représentatifs de la réalité. Mais il faut ce qu'il faut, tu sais, c'est un syndrome tellement rare. Mais aussi, je propose, pour approfondir, puis un peu aller chercher d'autres pistes, d'analyser aussi ce qui est dit sur ce groupe-là de survivants, c'est quoi les problèmes dont ils parlent, comment ils offrent du soutien, puis même d'aller retourner sur ces groupes-là pour donner une rétroaction sur les résultats, puis essayer aussi de voir qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut interpréter ça, fait que c'est un processus continu, c'est au-delà du recrutement, vous savez, on est, le recrutement, là, c'était il y a 10 ans, maintenant, on est rendu dans l'analyse. Bon, bref, pour les chercheurs en ébullition et avec une coiffure extrêmement belle comme la mienne, les réseaux sociaux, c'est Je pense que ça offre beaucoup, beaucoup de potentiel pour diminuer les coûts. Il n'y a pas de coût d'impression, de poste. La rétroaction aux participants peut être instantanée. Puis on peut rejoindre des populations plus isolées, plus marginales aussi avec ça. Donc, moi, j'ai rempli mon formulaire de demande éthique. Vous voyez, moi, là, bon, j'ai pas de numéro de téléphone parce que c'est désuet. Puis le télécopieur, c'est encore plus désuet. Fait que j'envoie ça par Internet à Maître Nollet. Vous voyez, ça part par Internet. Et Maître Nollet, là, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va me dire.
Donc, moi, je vais agir en tant que comité d'éthique de l'université virtuelle auquel docteur, j'allais dire Sikou, mais désolé, docteur Tweet, a présenté son projet. Donc, on va vraiment aller, en tant que comité d'éthique, se positionner sur les enjeux éthiques et juridiques qui sont liés à l'utilisation de l'Internet. C'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux, comme les considérations qui sont liées à la méthode, donc la certitude de l'identité du participant ou de son âge. C'est plus difficile quand on va par Internet parce qu'on n'a pas la personne devant nous. Il y a également l'évaluation des risques. Donc on peut parler de la traçabilité de l'information. On peut parler aussi du suivi ou du soutien psychosocial, le cas échéant, si on en a besoin. On peut parler naturellement du consentement libre et éclairé. Mais vraiment, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est plutôt de la protection de la vie privée et de la confidentialité, puisque c'est le thème de l'activité de ce matin. Pour ce faire, je vais vous céder la parole à Maître Lecoq, qui est la juriste sur le comité d'éthique de l'Université virtuelle.
Bonjour. Alors, le projet proposé par Dr. Tweet soulève bien évidemment plusieurs enjeux sur le plan de la vie privée et le respect de la confidentialité. On note en fait que ça va situer aux trois paliers ou cycles, si vous voulez, de son projet, c'est-à-dire tant au stade du recrutement, les enjeux sont également soulevés au niveau de la collecte de données et leur conservation, et enfin au stade de la publication des résultats. Alors, comme avocate, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de vouloir retourner, juste rappeler un peu aux membres de notre comité les fondements de ces principes-là. Et je vous dirais, c'est vraiment des fondements auxquels on ne peut pas échapper. Ils sont considérés tellement importants, le principe de la vie privée, que c'est consacré dans notre Charte des droits et libertés, à son article 3. On retrouve aussi dans le Code civil, à l'article 35, le même principe, que toute personne, on doit respecter leur vie privée, leur réputation, et que les atteintes à la vie privée sont seulement permises, soit quand la loi l'autorise ou la personne elle-même l'autorise. On note aussi un peu plus loin, à l'article 36, des illustrations de ce que peut constituer une atteinte à la vie privée. Je vais juste demander au docteur Tweet de me donner la feuille juste à côté de vous.
Pardon.
Merci. Donc, on voit en fait que intercepter ou utiliser volontairement une communication privée, par exemple, c'est considéré comme une atteinte à la vie privée. Également, surveiller la vie privée de quelqu'un d'autre, par quelque moyen que ce soit, c'est considéré comme une atteinte à la vie privée. Il y a également toutes les lois qu'on connaît sur la protection des renseignements personnels, qui imposent aussi qu'on s'assure, indépendamment de comment on les collige, qu'on assure la protection et la confidentialité de ces renseignements. Et sur le plan éthique, on retrouve cela évidemment dans les normes qu'on connaît bien, énoncées des politiques de droit conseil et évidemment dans les standards du FRSQ, entre autres. Ça, c'est plus localement. Alors, pour son projet fascinant au Dr. Tweet, et c'est pas parce qu'on veut briser son enthousiasme, en fait, c'est qu'on veut l'aider à bien être capable d'exécuter ses obligations à l'égard des participants de recherche, donc son devoir d'assurer la confidentialité des données qu'il va aller colliger. Je vais faire un tour de table, parce que la salle est tellement immense, mais peut-être demander à ceux qui considèrent que le mode de recrutement proposé par Dr. Tweet, c'est-à-dire de mettre une annonce de son projet de recherche sur la page du groupe de discussion qui est sur Facebook, est-ce que vous considérez ça comme intrusif ou non? Donc, peut-être ceux qui considèrent ça intrusif, levez la main. Okay. Et donc, les autres, vous trouvez que c'est pas intrusif, c'est ça? Ou vous avez pas d'opinion? OK, c'est parfait. Et aussi, si jamais le projet du Dr. Tweet consistait uniquement à étudier les interactions entre les membres de ce groupe-là, par exemple les patients, sans intervention de sa part, mais uniquement comme observateur, de regarder c'est quoi l'échange d'intervention, et là, il ferait une analyse qualitative Est-ce que vous pensez que ça requérait le consentement du participant ou non? Okay, là, il y a beaucoup de oui, puis les non. Oui, non? OK. Donc, en fait, pour nous aider à un peu démêler tout ça, parce que là, c'était un peu plus unanime la réponse, mais ce n'est pas complètement. Dans la littérature, puis j'ai cité les divers auteurs, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour résumer ceux qui en parlaient le plus, je dirais. Et c'est vraiment cette lecture et revue de la littérature qui nous a inspirés à soulever ces enjeux-là sur le plan juridique et éthique par rapport au projet du Dr. Tweet. Alors, les deux questions qu'on devrait se poser sont, est-ce que ce forum de discussion, par exemple, ou bien le site professionnel LinkedIn, mais Facebook pour le forum de discussion, est un espace public ou un espace privé? Puis on va continuer la discussion, mais c'est la première question. Ensuite, même si on arrivait à la conclusion que ces espaces étaient des espaces publics, est-ce que les utilisateurs de ces espaces-là ou de ces sites-là ont des attentes de vie privée quand même? Donc ça, c'est vraiment en deux parties qu'il faudrait qu'on analyse la question. Et c'est super intéressant parce qu'en termes de fondements ou les règles qu'on doit appliquer, ce sont les mêmes. Qu'on parle d'Internet ou de recherche avec les papiers ou traditionnels ou plus futuristes, les fondements juridiques et éthiques demeurent les mêmes pour l'instant quand on parle de protection de vie privée, mais la question devient la suivante, c'est est-ce qu'on est dans le domaine public ou est-ce qu'on est dans le domaine privé sur ces sites-là? Et c'est ce qui est très intéressant. Et on remarque, et sûrement, selon les cultures, c'est des notions différentes de ce qui constitue l'espace public ou privé, et également dans le temps, dans l'histoire, ce qu'on a considéré traditionnellement comme étant réservé à notre vie privée versus ce qu'on partageait en public, ça évolue dans le temps, évidemment, même au sein d'une même culture. Mais c'est important de garder à l'esprit que ce sont des notions en mouvance, donc il va y avoir des zones de flou. Par exemple, il y a des sites où, quand on est utilisateur, on accepte certaines conditions, de rendre public, vraiment public, certaines données, mais on peut régler les paramétrages pour dire, certaines autres données, je veux plutôt les réserver à un public plus restreint. Donc, ça me donne l'impression que c'est une zone un peu plus privée où je partage peut-être avec des gens plus intimes certaines informations que je considère peut-être plus personnelles, mais que je veux quand même partager. Donc, c'est cette dichotomie de dire on veut quand même s'afficher d'une certaine façon publiquement, mais certaines fois, on va choisir justement le public qu'on va cibler. Donc, on voit qu'il y a des volets publics, peut-être des fois ici, des attentes un peu plus de vie privée. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des zones beaucoup plus réservées où on a des mots de passe et des codes d'accès, etc., où là, on peut penser que les gens considèrent que c'est un peu plus privé, même si on sait très bien que ces données-là sont quand même disponibles aux gens qui possèdent les propriétaires des sites, etc. Donc, ça reflète un peu ce que je viens de dire au niveau de vraiment essayer de penser à cet espace public ou privé, et ça va varier selon ce qu'on cible ou non. Dans le cas du Dr. Tweet, on peut se poser la question, puis on va aller plus loin avec Maître Nollet pour des pistes de solutions après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on conclut que la page LinkedIn, c'est public, ou le forum de discussion, s'il est ouvert, puis tout le monde peut y aller, on peut dire, écoutez, c'est leur problème. Si on décide de mettre toutes ces infos-là sur ces médias sociaux, ils doivent savoir puis assumer les risques parce qu'ils se sont abonnés puis ils mettent tout ça là de leur propre gré. Quand même, dans la littérature, on dit, faites attention parce que même si c'est public, il faut qu'on regarde un ensemble de facteurs pour déterminer si on ne va pas aller un peu plus loin pour demander plus de consentement ou proposer aux chercheurs des alternatives dans son recrutement qui pourraient être moins intrusives. Par exemple, si il avait sur le site de son université virtuelle, peut-être ça serait possible aussi de faire quelque chose comme ça, ou d'autres méthodes, Annick va en parler plus amplement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la nature des renseignements qui sont colligés, tant dans la recherche que les renseignements qui sont mis sur ces sites-là. Il y a le degré de sensibilité du thème qui est étudié. Le projet du Dr. Tweet soulève quand même des enjeux de qualité de vie. Il aborde aussi les questions de sexualité aussi, donc c'est quand même des sujets qu'on peut considérer sensibles, le fait que c'est des renseignements de santé aussi. Et également la vulnérabilité du groupe étudié. Donc, c'est pas juste la vulnérabilité en termes de petite population peut-être atteinte de cette maladie, mais c'est aussi la connaissance que les gens ont, leur degré de maîtrise des médias sociaux. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas, en fait, qui acceptent tout ça sans vraiment comprendre ou connaître qu'est-ce qu'ils mettent sur ces sites publics-là. Donc, c'est des enjeux à considérer pour le chercheur. Donc, on voulait poser des questions à ce niveau-là. Juste un petit mot pour dire qu'il y a vraiment une différence en termes des attentes de vie privée pour un professionnel qui met tout son profil sur LinkedIn versus peut-être un patient dans un groupe de forum de discussion qui est plus restreint. Alors, les enjeux vraiment importants, c'est vraiment de poser au Dr. Tweed des questions sur est-ce qu'il est au courant des lieux de conservation? S'il fait un sondage avec SurveyMonkey, est-ce qu'il sait où sont conservées ces données-là? Est-ce qu'elles sont locales? Est-ce qu'elles sont aux États-Unis? C'est quoi les règles applicables là-bas? C'est quoi les mécanismes de protection des renseignements s'il utilise ces outils-là? Lui-même, quand il va colliger ses données, elle va être colligée où? Est-ce qu'il va avoir ça sur son ordi, sur son portable? Est-ce qu'il va avoir sécurisé ou crypté les données? C'est toutes des questions qu'on va vouloir lui poser. Également, qui a accès aux données? Donc, sur ces sites-là, c'est très, très important qu'on lui demande s'il est au courant de qui va avoir accès à ces données-là. Est-ce que les gens qui ont ces sites-là ont accès? Est-ce que ça peut être intercepté aussi en termes de confidentialité? Je vais passer plus vite, là, il me reste deux tapots. Alors, ça va vraiment, la réponse à ces questions-là va varier en fonction des caractéristiques du site qui est choisi, en termes de est-ce que c'est sécurisé ou non, est-ce que le serveur est à l'étranger ou non, puis c'est quoi les lois applicables. Si, par exemple, toutes les informations sur LinkedIn sont stockées et conservées en Irlande, bien, c'est quoi les lois applicables en Irlande en termes de protection de ces informations-là. Donc, il faut quand même sensibiliser le chercheur à tous ces enjeux-là. Et ensuite, la question plus touchy, c'est vraiment de se demander, c'est quoi l'étendue de l'obligation du Dr. Tweed d'éduquer ses participants quant à l'usage des sites en ligne comme ça? Parce qu'on comprend que lui a un devoir d'obtenir le consentement libre et éclairé. Donc, évidemment, un devoir d'expliquer c'est quoi les risques pour eux de participer à ce projet-là. Mais est-ce qu'il doit nécessairement reprendre toutes les politiques d'utilisation et de confidentialité de tous ces sites? Annick va nous proposer des pistes de solutions à ce niveau-là, mais c'est important juste de garder à l'esprit qu'en matière de recherche, on a toujours un degré supérieur d'informer au niveau des risques pour nos participants. Puis ça, on l'oublie des fois quand on parle de médias sociaux, mais c'est important de se le rappeler, cette notion de base-là. Donc, enfin, au stade de la publication aussi, Dr. Tweed va peut-être décider qu'il veut publier en gardant l'anonymat des participants, mais ça, on ne le sait pas encore. Il faut quand même qu'il fasse attention parce que même si on publie certaines données de façon anonyme, c'est parfois possible de retracer avec des renseignements identificatoires retrouvés dans d'autres banques de données ou encore une fois sur des sites. Donc, on peut des fois identifier quand même les participants. Donc, on va lui dire de faire attention à ça. Et enfin, si jamais c'est considéré entièrement du domaine public, une citation ou un échange qui est là sur les sites Internet, il faut quand même qu'on respecte la notion de droit d'auteur. Donc, ça va être un enjeu qu'il va falloir soulever également avec lui. Donc, je remets la parole à notre présidente du comité de l'université.
Donc, mon rôle maintenant est de proposer des démarches pour améliorer la protection de la vie privée des participants qui vont justement prendre part à une étude sur le web. Et je vous dirais que la littérature québécoise est très bien, documente très bien et offre de belles pistes de solutions sur le sujet. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on comprend que notre structure est peut-être pas adaptée, la structure d'évaluation éthique est peut-être pas adaptée encore à l'ère d'Internet. Par ailleurs, en tant que comité d'éthique, on doit s'assurer le respect de la vie privée, la confidentialité des participants. Donc, on doit mettre en place avec ce qu'on a actuellement des mesures. Et je pense que les structures vont devoir être appelées à évoluer justement pour pouvoir, de façon plus concrète, gérer et assurer la confidentialité des participants qui participent justement à ce type de projet. En tant que comité d'éthique, on va décider naturellement que Dr. Tweed va avoir besoin d'un formulaire de consentement. Par ailleurs, il n'y a pas la personne devant lui. Donc, il faut que le consentement soit accessible à la personne, que la personne puisse comprendre l'information, mais qu'il faut qu'il soit aussi précis sur les risques et sur tout ce qui se passe en termes de ce que le projet propose aux participants. Donc, ce qui est proposé dans la littérature, c'est de faire d'abord un formulaire de consentement avec des cases à cocher, puis que la personne prenne le temps de lire et quand elle l'a lu, bien, elle case la petite coche. La première case, c'est vraiment la nature des interactions entre les internautes et la façon que ça va être analysé. Je pense que c'est très important que ça soit expliqué aux participants pour qu'ils comprennent vraiment la nature du projet, mais aussi la nature de l'information qu'il va donner et comment ça va être traité par la suite. La deuxième cases à cocher, ça serait vraiment un résumé des risques de l'utilisation d'Internet en recherche. On sait que malgré des mesures de confidentialité ou de sécurité ou d'intégrité qui sont prises par le chercheur pour assurer justement le tout pour les données, ben il y a des risques avec Internet, donc des risques de capture ou de qu'un tiers capture les informations. Il y a peut-être un risque manquement à l'intégrité aussi, un risque que l'information disparaisse ou qu'elle soit manipulée. Donc ça, je pense que c'est important que le participant soit au courant de cette situation-là. Bon, naturellement, il y a d'autres risques qui vont découler du projet lui-même qui devront être discutés aussi, mais on se limite plutôt, vu ça, vraiment au risque Internet sur la présentation ici. Il faut aussi qu'il résume ou qu'il parle des paramètres de sécurité du site qu'il va avoir choisi, effectivement, pour que le participant connaisse en quelque peu, ou du moins, les certaines modalités par rapport au site. Il y a certains sites qui permettent, le chercheur a beau dire qu'il assure la confidentialité, mais par ailleurs, il y a certains sites qui permettent la vente ou qui vendent ces données-là à d'autres sites. Donc, il faut juste être sûr que c'est pas le cas. Donc, c'est une obligation du chercheur de s'en assurer, puis le cas échéant de divulguer aux participants. Naturellement, on va vouloir dire aux chercheurs, on va vouloir dire aux participants, pardon, s'ils enregistrent ou non les adresses IP. Donc, ça permet plus facilement l'identification des participants quand on enregistre une adresse IP. Donc, veut, veut pas, c'est quelque chose que le participant doit savoir. Aussi, il doit, en tant que chercheur, il y a l'obligation d'inviter les participants à ne pas partager de l'information sensible sur un site qui n'est non sécurisé. Parce que naturellement, bien, vu que c'est non sécurisé, l'interception de l'information est plus facilement accessible. Également mentionner le droit de retrait du participant puis la possibilité de sauter des questions s'il ne désire pas répondre à ces questions-là, c'est très important. Puis également, finalement, s'il y a des problèmes ou des difficultés sur le plan psychologique où il y a un problème, il devrait toujours avoir un lien avec une ressource disponible pour laquelle le participant pourrait justement cliquer puis par la suite rentrer en contact avec cette personne-là. Okay. Il faut aussi demander aux chercheurs de considérer les meilleures pratiques en matière de sécurité. Donc, naturellement, on va lui suggérer d'utiliser une connexion Internet qui est protégée, qui est sécurisée. Idéalement, on va demander de minimiser les interactions lorsque possible. Parce que plus il y a d'interactions entre les internautes, plus les personnes décident dans un débat ou entrent un débat, bien, plus on est porté à vouloir donner de l'information. Donc, en limitant un peu les interactions à l'internaute, bien, on limite quand même, on assure ou on propose une meilleure confidentialité. Puis également, si on utilise les courriels, bien, naturellement, il faut faire attention dans l'utilisation de ce mode-là. Donc, utiliser « copie conforme invisible » ou être certaine de l'adresse exacte des participants pour être sûr que l'information ne soit pas donnée à d'autres personnes qu'à lui. Finalement, ce qui est important, ça va être déterminer les attentes de vie privée des participants potentiels, donc des gens qui peuvent participer au projet. Ce qu'on suggère à ce niveau-là, c'est de consulter les politiques d'accès et les modalités du site qui vont être utilisées. Également, c'est consulter le responsable du site pour savoir davantage sur le site et sur ce qui est acceptable sur ce site-là. Donc, la description du groupe, le fonctionnement, comment le groupe fonctionne, la culture, ce qui est toléré, ce qui n'est pas toléré, puis les réserves et les recommandations. Puis finalement, ce qui est proposé, c'est de valider l'information auprès des internautes sur le titre de participer. Ça va avec les perspectives de l'énoncé de politique des trois conseils qui demande que ça soit validé à ce niveau-là pour être sûr que les personnes qui participent souhaitent que cette information soit utilisée de cette façon-là. En termes de diffusion des résultats, quand il y a des atteintes à la vie privée qui sont faibles, bien, naturellement, on peut utiliser les citations de droits d'auteur et de méthodes normalisées. Et on doit le faire. Par ailleurs, si les atteintes de vie privée sont élevées, comme dans le cas ici, donc la question serait « Bonjour, une question dans le cadre de notre recherche sur la qualité de vie des personnes vivant un syndrome Guillain-Barré, êtes-vous satisfait des services que vous recevez en réadaptation? » T'exagères dit que malgré son nom, mon ergo au centre de la bonté n'est pas très fine. On s'entend qu'ici, il réfère à Aimé d'amour qu'on a vu tantôt. Donc, il y a un croisement des données qui est quand même important, qui pourrait avoir une atteinte à la réputation aussi. Donc, dans un cas comme ça, ou le cas où j'espère, elle dirait, je suis contente globalement, Même si j'aimerais que les services soient plus accessibles au centre ABC, c'est long avant d'avoir un rendez-vous. Bon, on s'attend qu'il peut y avoir des interrelations entre les données. Donc, dans un cas comme ça, on demanderait justement l'anonymisation des données et faire en sorte qu'on respecte la confidentialité de tous les membres du groupe. C'est la fin de notre présentation. Un rappel qui est important, si en tant que chercheur, vous hésitez ou face à des questions, bien, n'hésitez pas à communiquer avec votre comité d'éthique qui va pouvoir vous guider et peut-être vous amener à des pistes de solutions qui n'ont peut-être pas été abordées ici, mais qui pourraient être traitables. Puis, pardon. Oups, pardon. Je vais essayer de redemander la slide. Mais c'était des ressources qui sont disponibles, notamment au Québec, qui pourraient être aidantes pour toute personne qui veut utiliser les médias sociaux pour leur projet de recherche. Merci.